Tout terrain.
Tout terrain.
Tout terrain.
L'émission de Xavier Crombet.
Sur le trottoir d'à côté.
Bonjour et bienvenue sur Tout terrain pour une émission hébergée aujourd'hui au Bistrot des Mésanges dans le 20e arrondissement de Paris. Une émission hébergée donc, et ça tombe bien, car nous parlerons aujourd'hui d'hébergement social et des moyens de lutter pour que ce droit essentiel soit respecté. Au mois d'octobre dernier, dans le cadre de la Biennale du film d'action sociale, j'avais accueilli Olivier Cousin, réalisateur du film « Un toit sur la tête ». Ce film est projeté à nouveau ce soir au centre socioculturel de l'Archipelia, à quelques pas du Bistrot des Mésanges. Et nous avons décidé de profiter de cette nouvelle projection pour réunir dans cette émission les quatre militants qui avaient participé au film. On reviendra sur la notion du mot militant, mais en tout cas, c'est le point de départ de cette discussion. Donc j'accueille autour de moi quatre intervenants, Annabelle Quillet, Virginie Garnier, Sylvie Fernandez et Thomas Coudrette. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Bonsoir.
La première des questions est pour présenter votre travail. Vous êtes tous les quatre militants sur la question, je l'ai dit, de l'hébergement social. Vous avez des parcours différents les uns des autres, mais vous vous êtes retrouvés dans un combat collectif pour qu'à Toulouse, le droit à l'hébergement des plus précaires, des plus fragiles, soit garanti. On vit dans une époque aujourd'hui où il est possible d'être militant professionnel. Ce qui m'a intéressé dans votre parcours, pour ce que j'en sais, c'est que vous êtes devenu militant à partir de positions professionnelles variées. Donc c'est la première question que j'aurais envie de vous poser aux uns et aux autres. C'est comment on devient militant et pourquoi ? Annabelle, est-ce que vous voulez commencer ?
Alors, moi je dirais que je suis devenue militante par nécessité. C'est-à-dire qu'effectivement, travaillant dans un service public, avec pour mission d'accompagner les gens vers un mieux-être, qui peut passer par un hébergement, qui passe souvent par un hébergement à la base, et qu'effectivement, étant un petit peu utopiste, je me disais qu'on allait me donner les moyens de pouvoir travailler avec ces personnes et de les accompagner vers un mieux-être, en tout cas. Et que, de par mon travail, travaillant la veille sociale départementale, ou la veille sociale, ce qui veut bien dire que nous sommes en veille, et que donc nous sommes, une de nos missions est de faire remonter les besoins auprès du ministère pour que les moyens soient ajustés. Donc après, voilà, on sait très bien que c'est compliqué de pouvoir héberger tout le monde. Hein. On a travaillé pendant des années dans ce service social, sans être militant, avec des moyens manquants. Et voilà, et on accompagnait les gens à patienter à la rue en attendant un hébergement. Donc ça, pendant des années, on a fait ce travail-là parce qu'effectivement, on manquait déjà d'hébergement. Le problème qu'il y a eu, et là où à un moment on s'est posé des questions, c'est qu'effectivement, il y a eu des gens qui sont morts à la rue par des choix politiques de la préfecture qui ont été faits. Des fermetures de petits collectifs ou des personnes grands précaires étaient hébergées. Ils ont fait le choix pour des problèmes financiers de fermer ces petits collectifs. Et là, ces gens mouraient à la rue. Voilà, concrètement, mes collègues avaient sur leur liste de personnes à accompagner, mais il y en avait de moins en moins. Et parallèlement à ça, effectivement, il y avait de plus en plus d'enfants. On rencontrait de plus en plus d'enfants à la rue. Et que donc là, nous avons fait notre travail hein, d'interpellation de l'État en disant attention, là ça devient très critique, il y a des gens qui meurent, il y a des enfants qui dorment à la rue. Là c'est grave, il faut réagir. Et le problème, c'est qu'en face de nous, il n'y a eu aucune réaction. Et non seulement il n'y a eu aucune réaction, mais il y a eu même un mépris de nos remontées. Et que là, effectivement, je me suis dit que, de par mes missions, de par ma place dans un service public, je devais réagir et faire en sorte que le droit de ces personnes soit respecté et pas bafoué.
Je passe à Virginie.
Oui, c'est un petit peu ce que dit la même chose. Enfin, ce que dit Annabelle, c'est la même chose. On se rejoint vraiment sur ce fond-là. Effectivement, c'est avant tout pour essayer d'assumer nos missions de service public, ce pourquoi on s'est engagé dans ce métier. On ne travaille pas à cet endroit-là par hasard non plus. Donc voilà, c'est bien qu'on a des convictions, c'est bien qu'on essaie de porter quelque chose. Moi je me sens témoin, je suis dépositaire de la vie des gens. Mon rôle à la veille sociale en tant qu'assistante sociale, c'est de faire aussi remonter ce témoignage-là, parce que les gens n'ont pas accès direct et ne peuvent pas directement raconter leur vie. Du coup, voilà, c'est aussi mon rôle. Et à un moment, à force de faire remonter ce témoignage-là où on n'est pas entendu, et les gens restent à la rue, ils ne sont pas aidés, on se dit, ben, on fait quoi ? On fait quoi ? On essaie de signaler par tous les moyens, des manifestations, enfin voilà, on a déjà dépassé les remontées de chiffres qu'on fait quotidiennement, ça ne fonctionne pas. Et puis au bout d'un moment, on se dit, bon, ben, on va plus loin, tant pis, on va essayer de... On ne nous donne pas les moyens de travailler, d'assumer nos missions, et ben, on va les chercher nous-mêmes, parce qu'on n'est pas entendu. Et c'est comme ça qu'à un moment, on va basculer effectivement dans du militantisme. On le fait, pour moi, on le fait en interne, c'est-à-dire qu'on le fait vraiment au sein, à titre professionnel, au sein de notre structure, parce que ça, c'est essentiel, ça fait partie d'une de nos missions principales et primordiales. Par contre, effectivement, à un moment, c'est on n'est pas entendu, on n'entend pas les gens, on n'entend pas notre voix, on trouve d'autres moyens ailleurs.
On va évidemment passer en revue ces moyens et les stratégies que vous avez décidé de mettre en œuvre. Sylvie, votre propre parcours.
Ben moi, je ne me considère pas comme militante. Alors après, j'ai été amenée, là, depuis quelques temps, quasiment plus, mais à devoir intervenir, aider, réfléchir à des moyens, effectivement, de mettre à l'abri, comme Anna le disait, des grands précaires et puis après des familles. Parce qu'il faut savoir que quand même... moi, je travaille sur ce service depuis 99. Jusqu'en 2007-2008, on faisait 50% de réponses positives. Et puis, petit à petit, pour des raisons diverses, on a fait de plus en plus de refus pour arriver jusqu'à 95% de refus. Et là, effectivement, on ne peut plus du tout travailler. On ne peut plus mettre à l'abri les plus fragiles, on ne peut plus mettre à l'abri les plus vulnérables. Et ce, effectivement, au mépris des tutelles qui continuent de nier. Et d'ailleurs, on le voit bien quand on parle avec les citoyens lambda qui ignorent complètement les quantités de personnes qui sont laissées dehors. On pense qu'il y a un état encore providence qui met à l'abri les gens, mais en fait, dans les faits... quels que soient les services qui prennent en charge les personnes via le 115 nationalement, font état de refus de plus en plus élevés. Donc ça, c'est des choix de politique. Et puis, moi, à un moment donné, c'est devenu nécessaire de participer à ce collectif qui était déjà installé pour pouvoir être présent et accompagner des situations humaines insupportables.
Que vous soyez militante consciemment ou pas, vous avez en commun en tout cas d'être travailleurs sociaux toutes les trois. Thomas Coudrette, vous n'êtes pas travailleur social au départ et vous avez malgré tout rejoint ce collectif et cette action militante pour le coup.
Donc non, effectivement, je ne suis pas travailleur social, mais voyant la façon dont les choses se passaient et dont on laissait les personnes à la rue, quand j'ai rencontré ce collectif et que j'ai vu ce qui s'y faisait, je m'y suis vraiment retrouvé, notamment justement parce qu'il y avait beaucoup de professionnels et qu'on était sur des choses concrètes et qui avaient du sens. Pardon. Puis du coup, j'ai milité effectivement à leur côté. Et je pense qu'effectivement, on ne milite pas pour une idéologie politique. Donc on est là pour défendre des droits fondamentaux. Donc je pense que c'est pour ça qu'on est militant dans ce sens-là. Mais voilà, ça fait des années maintenant. Et on voit que c'est encore nécessaire de se mobiliser, malgré toutes les mobilisations de ces dernières années, malgré tout ce qu'on a pu obtenir. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup à faire. Il y a encore des personnes qui meurent à la rue et le droit à l'hébergement est malheureusement loin d'être garanti.
Je vais m'arrêter un instant sur votre position, Thomas, parce que Sylvie rappelait que beaucoup de gens dans notre société, tout en entendant parler de la question des SDF et de la précarité du logement en France, n'ont aucune conscience des chiffres et de la réalité dans ce domaine. Pour des travailleurs sociaux, on est témoin de ça. Quand on ne l'est pas, on voit les choses différemment. Alors est-ce que c'est de le voir dans la rue qui suffit à passer le pas ?
Je crois que malheureusement, on a l'occasion de le voir au quotidien, quoi. À la fois dans la rue, dans les médias. Je crois que personne ne peut dire qu'il ne le sait pas. Mmh. Et à un moment, je crois que c'est une question de conviction et de posture. Soit on décide de fermer les yeux, de fuir cette réalité, de dire « oh, c'est malheureux », et puis... C'est bon, les gens qui regardent la télé, le reportage d'après va les faire penser à autre chose, quoi. Donc soit on se dit, bon, ça ne concerne pas directement, c'est dommage, bon voilà. Soit on décide de devenir acteur, et effectivement, je pense que dans ce cas-là, ça a du sens de s'engager, aux côtés de gens qui connaissent bien le sujet et les solutions.
Alors, on a parlé de ferme, on n'a pas encore dit ce que vous aviez fait. Concrètement, et c'est ce que le film d'Olivier Cousin montrait, et c'est la discussion qu'on avait eue à l'époque ensemble autour de votre action, l'un des choix déterminants qui a été le vôtre de la position que vous veniez, ça a été d'accepter l'idée de l'illégalité, c'est-à-dire d'aller au-delà de ce qui était dans le cadre normatif et légal, pour défendre une certaine idée de la loi, j'ai envie de dire, puisque c'est d'ailleurs ce que dit votre site internet. Annabelle, vous voulez...
Oui, complètement. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, on a fait le choix parce que, voilà, ce que je racontais, c'est qu'on a fait des grèves, des manifestations, ce que les Éverginies, rien n'y faisait. On a été rencontrés par le sous-préfet de l'époque qui nous a dit « on ne peut pas vous aider, on n'a pas de bâtiment, on n'a pas d'argent, on ne peut pas vous aider ». Il nous a dit « débrouillez-vous par vous-même ». Et là, on s'est dit « là, quand même, on a l'autorisation de se débrouiller par nous-mêmes, eh bien, on va le faire, quoi ». Et donc, effectivement, on a fait le choix de se dire, bon, il y a des gens à la rue. C'est une loi qui n'est pas respectée, puisque il y a une loi qui dit que toute personne à plein 115, dans une détresse psychologique, etc., doit être hébergée et que l'État ne respecte pas cette loi. Nous, quelque part, on peut se sentir complice de cette loi. Donc, effectivement, on va, à un moment, faire le choix d'ouvrir des maisons qui sont vides, qui appartiennent à l'État ou aux collectivités territoriales, pour justement que cette loi soit respectée, quitte à passer nous-mêmes dans l'illégalité. C'est-à-dire qu'à un moment, on choisit notre illégalité. C'est illégal de laisser des enfants à la rue et des gens mourir à la rue. C'est illégal d'ouvrir un bâtiment, de vivre dans un bâtiment et de l'ouvrir qui n'est pas à nous. Mais on préfère choisir cette illégalité, sachant que au-delà de mettre les gens à l'abri, c'est-à-dire c'était dénoncer les enfants à la rue et les grands précaires, mais tout en les mettant à l'abri. Parce que les grèves, effectivement, bon, c'est bien, mais ça n'aide pas les gens concrètement. Donc là, on s'est dit, on va faire du pragmatisme, c'est-à-dire qu'on va ouvrir des bâtiments, les mettre à l'abri, et par ce biais-là, dénoncer les manques, et démontrer à l'État, à la préfecture, que les bâtiments, ils les ont à Toulouse, ils sont vides depuis des années. Et que le système de l'autogestion fait qu'on n'a pas besoin de moyens pour des familles quand elles sont autonomes. Voilà, là nous avons affaire à des familles autonomes qui n'ont pas obligatoirement besoin d'un accompagnement social très, très proche. Voilà.
D'accord. Donc,
et juste pour finir, c'est qu'on proposait du coup un projet. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas juste mettre des gens à l'abri. Voilà, il y avait tout un projet.
Alors, le cœur de l'illégalité, c'est donc ce que vous appelez des réquisitions. Hein. C'est oui. Le fait d'aller, ce que montre encore le film d'Olivier Cousin, hein, d'aller... saisir des immeubles, ce que d'autres associations ont pu faire. Hein. Ensuite, oui. Ce qui était intéressant, enfin moi ce qui me semblait intéressant aussi dans votre démarche, c'est comment l'illégalité devient une stratégie, c'est-à-dire on agit dans l'illégalité et qu'est-ce qu'on fait de cette illégalité après ? Comment vous avez réfléchi à tout ça ? Parce qu'il y a l'action spontanée du début et puis ensuite il y a le fait de penser en avançant, quoi.
La chance que nous avons eue, c'est que effectivement le premier bâtiment que nous avons ouvert, c'était pour des personnes grands précaires, pour des grands précaires. Les familles, les enfants, c'est venu après parce que pour nous la priorité c'était ceux qui mouraient. On a essayé de faire dans le plus urgent. Et que là, effectivement, cette lutte, au début, on ne savait pas où on allait. Hein. C'était pour nous, c'était voilà, il y a des gens qui meurent. Enfin, on parle de gens qui meurent. C'était pas. On disait, mais comment ça se fait que personne n'entend ce que nous disons, quoi. C'est pas possible. Il y a des gens qui meurent, qu'on ne retrouve pas. Et donc, on ouvre un bâtiment, on y abrite ces personnes, mais on ne savait pas du tout où on allait. À la base, on s'était dit, voilà, on dénonce les bâtiments vides et les gens qui meurent. Et en fait, il y a eu toute une... il y a eu un engouement, on a eu un gros soutien de travailleurs sociaux, de d'autres personnes, il y a eu un gros soutien, et qui fait que nous avons gagné un procès contre l'État. Et c'est comme ça qu'à un moment, l'État, la préfecture, a dû nous intégrer dans une démarche de négociation. Voilà, et que voilà, ça date d'il y a 5 ans, ça c'est il y a 5 ans. Donc vous voyez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu avant tout un travail qui, au début, on n'était vraiment pas les bienvenus. Donc au début, on n'avait pas vraiment conscience de. On savait que c'était illégal, mais c'était pas notre problème. Enfin, je veux dire, voilà, pour nous, c'était juste éviter que des gens meurent à la rue.
Alors comment se fait la répartition des rôles une fois que l'action est lancée ?
Juste pour continuer sur le projet. Un peu fou, hein, d'ouvrir un bâtiment pour mettre à l'abri les vieux de la rue. Effectivement, hein, quand même, on a été rassurés de gagner ce procès, sans son suivi des négociations avec l'État, pour quand même assez vite, créer une association avec un financement public, des salariés. Donc maintenant, c'est une affaire qui roule. Hein, c'est une association, loi 1901, avec des salariés, des vieux de la rue à l'abri, sur un lieu de vie, jusqu'à ce que peut-être ils finissent par mourir sur ce bâtiment-là. Et voilà, maintenant, c'est un lieu public, quoi. Donc, pour les familles, la question se pose un petit peu de la même manière, se décline en tout cas autour de la même manière, c'est-à-dire qu'on dénonce, les bâtiments réquisitionnés, les projets qui se construisent sur ces bâtiments-là n'ont pas de, le projet de rester en soi à l'infini. Si se monte une association, si un projet voit le jour, eh bien très bien, tant mieux, et on n'aura plus de raison d'être. C'est quand même un petit peu le cœur aussi de nos actions, c'est qu'à un moment donné, ben, on n'ait plus besoin d'être là-dedans et que ça continue comme ça sans nous. Pour l'instant, à ce jour, on voit bien que quand même, en tout cas à Toulouse, il y a au moins autant de personnes hébergées sur des squats que dans des accueils d'urgence. Donc en 2016, c'est toujours pas résolu. Je parle pour les familles, mais pardon, on va quand même... En tout cas, à Toulouse, il y a encore beaucoup de personnes en famille qui sont hébergées sur des bâtiments. Alors, je vais rassurer tout le monde, c'est pas que nous. Mais après, on est un collectif très large. Il y a des travailleurs sociaux, mais maintenant pas que. Il y a beaucoup de citoyens lambda qui se sont intéressés au projet et qui sont maintenant très actifs sous divers projets, différents plans, des ateliers ou d'autres choses. Donc ça s'est organisé, oui, effectivement, au fil du temps, ça c'est sûr.
Parce qu'en fait, quand même, juste pour finir, parce qu'après je vais laisser parler un petit peu les autres quand même aussi, et juste pour finir sur votre question, c'est qu'en fait, effectivement, on passe par l'illégalité pour que l'État, à un moment, se ressaisisse de la loi et applique la loi. Parce que la maison Goudouli pour les grands précaires, c'est ça, c'est que nous, on ne fait pas ça pour gérer le lieu. C'est-à-dire qu'on a ouvert ça pour dire à l'État, maintenant, il faut que vous occupiez de ces personnes, et voilà, on fait un projet, enfin on monte un projet pour que ces personnes qui étaient très peu accueillies déjà dans les hébergements d'urgence puissent vivre avec un toit sur la tête, voilà, et pour lutter dignement et pour lutter aussi contre le fait que les gens choisissent d'être à la rue. Voilà, c'est Clodo, en fait ils l'ont choisi. Non, ils l'ont pas choisi, c'est qu'il n'avait pas de lieu adapté à leur problématique. Voilà. Et donc derrière, il y a un projet qui a été créé et que effectivement, donc du coup, nous avons forcé l'État à un moment à reprendre ses missions, enfin, et ses compétences, et effectivement à légaliser ce lieu et à le financer, à financer son fonctionnement.
Donc ce lieu, c'est la maison Goudouli, hein, donc que vous avez mentionné. Juste combien de temps a-t-il fallu pour que ce procès aboutisse et soit une victoire sur un plan légal?
Non. Ah, le procès est très rapide. Hein.
On a ouvert fin avril, le procès est au mois de mai. On a gagné le procès en urgence et après c'était légalisé le 1er janvier d'après.
Alors précisément, enfin, se retrouver face à un procès, c'est pas nécessairement l'expérience quotidienne d'un travailleur social. Il faut donc se doter de nouvelles compétences. Et donc c'est là où je parlais de répartition des rôles. C'est-à-dire qu'une fois que l'action a débuté et qu'elle produit des réactions et qu'il y a le procès, comment on se fédère et comment on décide qui fait quoi?
Du coup, la répartition des rôles s'est fait un peu naturellement en fonction des compétences de chacun, des disponibilités. Et c'est vrai que c'est un domaine dans lequel ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une entraide. Parce que moi, justement, on a besoin d'un peu tout le monde. Donc il faut des compétences en termes juridiques. Donc il y a aussi des avocats qui sont très impliqués aux côtés des militants, et ça depuis des années. Il y a d'autres associations, donc évidemment des travailleurs sociaux, des gens qui sont plutôt sur qui vont pouvoir aider sur la communication. Enfin, il faut énormément de compétences différentes. Et évidemment, j'en oublie beaucoup. Mais en tout cas, voilà, les rôles, je pense que c'est justement là où il y a une richesse de par la diversité des personnes qui s'impliquent. Il y a beaucoup de travailleurs sociaux qui sont impliqués dans ces collectifs. Mais il y a aussi des gens qui étaient dans l'éducation nationale, qui sont retraités. Il y a des étudiants. Enfin, il y a vraiment des... C'est un peu tout le monde qui peut s'impliquer sur ce sujet-là. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est que même d'ailleurs, au moment d'un procès, il y a besoin d'un soutien aux personnes concernés, donc voilà, tout le monde peut apporter quelque chose dans ce domaine-là.
Virginie, on vous a pas entendu depuis un certain temps, votre rôle dans cette histoire?
Mon rôle, ça va être plus sur, en tout cas, sur le nouveau lieu réquisitionné, sur lequel on a encore, qu'on voit dans le film, hein, rue d'Alès. C'est de l'intervention un peu sur du quotidien, on va dire ça, parce que c'est vrai qu'il y a... On dénonce, on ouvre, c'est une mise à l'abri, ça c'est l'urgence à laquelle on part en premier. Après derrière, ce lieu de vie, on dénonce à l'État, c'est ce qu'on dit les collègues autour de la table, mais après il faut le faire vivre quand même ce lieu de vie. C'est bien beau l'ouvrir, de mettre les gens à l'abri, mais on peut pas, là la rue d'Alès, il y a à peu près 150 personnes, une quarantaine d'enfants, à minima il faut une gestion. Donc c'est vrai que après c'est l'implication de chacun, c'est le temps donné de chacun. Et ce que disait Thomas, c'est tout à fait ça, c'est que au-delà, après de la mise à l'abri, c'est aussi un lieu de vie. Et ce lieu, il faut le faire vivre. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que chacun peut apporter un peu sa pierre à l'édifice. C'est-à-dire que nous, ce qu'on essaie aussi de démontrer dès le début, c'est que tout le monde peut le faire. On n'est pas exceptionnel, on n'est pas des héros, on est monsieur, madame, tout le monde. Voilà, à un moment, on fait ça, on s'implique là-dedans, et c'est très accessible à tout le monde. Il suffit d'un peu de bonne volonté. Souvent, quand des nouveaux militants arrivent, et qu'ils découvrent un peu tout ça. Et c'est vrai qu'on sait, on sait jamais trop. Voilà, ils nous demandent qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut s'impliquer, comment on peut aider. Moi, ce que je leur dis, c'est faites ce que vous avez envie de faire. Et parfois, juste aller boire un café avec les familles, discuter avec eux et quelque part faire du lien social. Hein. Juste ça, c'est déjà énorme. Parce que ça veut dire qu'à travers votre regard autour d'un café, ces gens-là, ils vivent, ils existent. Ils sont pas cachés, on assume ce qu'on fait, ils assument ce mode de vie parce qu'ils n'ont pas le choix de ce mode de vie. Et à un moment, rien que ça, c'est très très important. Et après, ça va être effectivement, chacun va mettre sa compétence comme il le sent au service du lieu de vie. Donc il va y avoir des plombiers, il y en a qui, on a des réunions une fois par semaine pour la gestion du lieu, mais aussi pour les revendications qu'on essaie de porter vis-à-vis des instances publiques. Mais les gens ne sont pas forcément à toutes ces réunions-là. Ça peut être aussi, moi j'ai envie d'emmener les enfants à un musée un après-midi. Ça peut être, je fais du soutien scolaire le soir et j'ai envie de faire que ça et de pas m'impliquer dans les stratégies, dans les réunions. Et très bien, parce qu'on a aussi besoin de ces gens-là. Parce que le temps, nous, à côté, qu'on peut donner sur les stratégies un peu politiques, les mises en place, les manifestations, les rencontres avec les pouvoirs publics, ça soulage aussi que d'autres personnes s'occupent des enfants, fassent des ateliers CV, santé. Et c'est ce qui est très riche et très important, en fait, de sentir comment mettre ce qu'on a envie de donner à ce lieu-là.
Alors, je pourrais résumer. Donc, il y a deux niveaux, deux étages à la fusée. Le premier, ça a été finalement le procès, et donc le combat politique et légal. Et le deuxième, c'est faire société, quoi. C'est créer un petit modèle social, faire boule de neige autour de soi. C'est deux étages et c'est pas la même temporalité. C'est-à-dire, finalement, il y a eu la success story du procès qui marche. Pour autant, c'est pas derrière. Il faut continuer l'action et puis s'occuper de ces gens. Et puis, est-ce que cette victoire en appelle d'autres ? Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Puisque les réquisitions, elles, continuent, les besoins continuent. Mais à ma connaissance, il n'y a pas eu d'autres procès gagnés.
Il faut voir que la bataille juridique n'est sûrement pas la plus importante. L'avocat qui nous défend le plus souvent est le premier à le dire. Ce n'est pas là que ça se passe. C'est avant tout quelque chose de politique. C'est avant tout quels sont les rapports de force, qu'est-ce qu'on va pouvoir dénoncer, quels sont les enjeux humains, les enjeux politiques, les enjeux financiers. Mais finalement, la justice, sur la question du droit de propriété, on est toujours sûr de perdre. On disait récemment, finalement, on apprend à mieux perdre, mais sur la question du droit de propriété, on perd à chaque fois quand même. Donc il y a eu une victoire effectivement notable à l'époque de Goudouli, mais qui a juste reporté de quelques mois l'enjeu. Mais après, c'est surtout ce qui a été proposé par le collectif et la création de l'association, c'est surtout ça qui compte. Et on est toujours dans des enjeux politiques. Aujourd'hui, on a effectivement aussi des liens plus développés avec notamment les collectivités locales ou la préfecture qui identifie très bien le GPS ou le C10. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on propose comme solution concrète, viable et réaliste. Et c'est surtout ça l'enjeu. Et c'est là où, notamment, on a progressé ces dernières années encore, avec des projets qui ont pu voir le jour, inspirés de ce qui se faisait depuis des années, notamment dans la mobilisation du patrimoine public et de bâtiments inutilisés pour y accueillir des personnes. Et donc, c'est vraiment des choses qui ont été gagnées politiquement avec de la conviction, du bon sens, plus que le droit, malheureusement.
Qu'est-ce qui, pour vous, explique que sur le plan du droit, ça ait marché pour la maison Goudouli et qu'après, ça marche différemment. En tout cas, on ne peut pas dire que ça ne marche pas, mais c'est plus le droit qui vient entériner une victoire.
Nous avons gagné parce que l'État nous a signé en urgence avec un référé d'urgence et c'est ça que nous avons gagné. En fait, nous avons compris qu'il n'y avait pas d'urgence. On n'a pas gagné, donc du coup, ce qui fait que ça repartait sur un autre procès pour nous expulser, mais qui a duré des mois et des mois, et que vu que médiatiquement, parce que c'est ça aussi, c'est que médiatiquement, nous avons été portés, soutenus, et que donc du coup, la préfecture n'a pas eu d'autre choix que de nous entendre et donc de négocier avec nous. Nous avons gagné effectivement le référé en urgence, mais pas le fond, enfin, effectivement.
Mais alors le fond aujourd'hui, c'est quoi ? On ferme les yeux et on tolère, dans une certaine mesure, votre action. Je sais pas, je vois des hochements de tête autour. Comment vous définiriez la poursuite de l'action ?
On est un collectif qui est reconnu et avec lesquels on travaille de mieux en mieux avec la mairie. Donc on est reconnu pour ne pas être des fauteurs de troubles, on est connu pour négocier les départs, on est connu pour respecter les bâtiments qu'on occupe, on est connu pour avoir une gestion donc quand même avec des travailleurs sociaux, ce qui est quand même assez peinard, excusez-moi du terme, mais quand même pour les collectivités, c'est-à-dire que c'est quand même un bon organe de paix sociale. Ils savent qu'un collectif qui est géré par le C10, donc avant le GPS, ben voilà, on gère les problèmes de voisinage, c'est très tranquille, les gens font leurs démarches, il y a des sorties positives, il y a des personnes qui trouvent des solutions de logement, du boulot ou des centres d'hébergement de réinsertion. Donc voilà, c'est propre, c'est voilà, les gens sont, ça se passe relativement bien et ça, force est de constater qu'on a un petit peu un label reconnu comme étant professionnel, entre guillemets, quoi qu'il en soit. Alors on ne le dit pas, on ne l'assume pas, c'est pas dit officiellement, effectivement. Hein. Mais on n'est pas reçu comme. Non mais on n'est pas reçu comme une association.
Je suis pas d'accord avec toi alors.
Gérant les centres d'hébergement par l'État en tous les cas, non, oui. Par la mairie, oui. Mais voilà. Par l'État, toujours pas. Mais en tout cas, effectivement, on est invité à la mairie au même titre que les associations.
Oui, mais c'est un combat, excuse-moi de te couper, mais là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que c'est un combat qu'on a gagné au fil des années. Oui. C'est que c'est une avancée. Et c'est que maintenant, si tu veux, alors c'est pas encore auprès de la préfecture, mais il n'empêche qu'on est invité à toutes les instances de la mairie, en tant que GPS et en tant que C10, au milieu des collectifs et d'associations reconnus et légaux.
Oui, bien sûr, Virginie.
Mais quand on parle, c'est quand même une avancée qui est énorme. Et donc, pour moi, c'est quand même une reconnaissance. Et gagner la bataille, elle est là aussi. On n'est pas encore au bout.
C'est une vieille question. C'était un des thèmes qui m'intéressait aussi dans cette émission. C'est que, au fond, c'est une question qui traverse bien d'autres enjeux du travail social. À quel moment est-ce qu'un collectif devient respectable et que ça pourrait fragiliser la lutte? C'est un peu ça que j'entends dans votre réaction, Sylvie.
Après, non, mais c'est juste que, quand même, pour spécifier, effectivement, on a des rapports qui sont dans la négociation et dans le respect et la confiance avec la mairie. Mais, comme disait Annabelle, on force l'État. Et clairement, c'est-à-dire que l'État doit financer, c'est une compétence État de prendre en charge le sans-abrisme, c'est pas une compétence de la mairie. Et donc, c'est l'État qui doit mettre la main au porte-monnaie. Donc, effectivement, il y a quand même encore, je trouve, même s'il y a une amélioration, on n'est pas reconnu. Mais bien sûr qu'ils vont pas nous reconnaître comme ça, puisqu'effectivement, on passe notre temps à leur dire ce qu'ils ne font pas. Donc avoir des rapports, et d'ailleurs c'est stratégique, on a de très bons rapports avec la municipalité qui soutient nos actions, mais à l'état actuel des choses, et je trouve ça logique pour l'instant, effectivement, l'État n'attend pas qu'on leur envoie nos projets pour les valider et les financer. Ça se passe pas comme ça non plus, enfin, on n'est pas naïf. Hein.
Bien entendu. Thomas.
Après, effectivement, une de nos particularités, c'est le fait qu'on tape sur la table quand on a affaire à l'inacceptable et qu'il y a des choses concrètes à faire. Donc on peut faire des campements, des occupations, faire venir les médias, enfin toutes sortes d'actions. Mais en même temps, on propose des choses concrètes. Et c'est pour ça quand même qu'on est écouté. Et là où quand même on a une forme de reconnaissance, alors effectivement, on rentre illégalement dans un bâtiment d'État, donc la préfecture nous dit « Ouh, mais quand même, on veut bien parler avec vous du reste, mais pas de ce que vous faites là-bas ». C'est ce qui avait été dit encore il y a un an. Mais concrètement, ils nous y laissent. C'est-à-dire que là aussi, c'est pas du tout le plan juridique. On est rentré, le bâtiment que le CDI s'occupe actuellement, dans lequel il y a 150 personnes, c'est un bâtiment qui appartient au ministère de la Défense. Une trentaine de logements, du T3 au T5, qui sont restés vides pendant 4 ou 5 ans. Quand on y rentrait, l'État l'a su le jour même, enfin la préfecture l'a su le jour même, ils ont décidé de ne pas nous virer, ils ont attendu 8 mois avant de nous mettre au tribunal, alors qu'ils pouvaient nous expulser, ben, on y est toujours, on va sûrement y rester jusqu'à la fin d'année scolaire, ce qui fera 2 ans de présence, donc finalement on a un accord tacite. Donc c'est l'État aussi qu'on met face à ses propres contradictions. Alors certes, il ne nous reçoit pas aussi bien que la mairie, mais le fait même qu'il ne nous envoie pas la police pour nous virer, et loin de là, c'est déjà une énorme reconnaissance de la part de la préfecture, puisqu'on squatte quand même des bâtiments qui lui appartiennent. Donc c'est à sa façon, aujourd'hui, il nous reconnaît. D'ailleurs, il y a un an, la sous-préfète nous a dit on est prêt à travailler avec vous, mais pas spécifiquement sur un bâtiment que vous avez ouvert vous-même sans notre accord. On veut bien travailler avec vous sur d'autres projets. Donc la porte n'est pas fermée. Hein, c'est juste que effectivement, ils sont un peu plus, ils se posent en garant de l'ordre républicain. Nous, on leur renvoie le fait qu'ils ne respectent pas eux-mêmes les lois sur l'hébergement pour des questions budgétaires. Et eux nous renvoient le fait qu'on rentre dans leur bâtiment sans respecter leurs droits de propriété. Bon, voilà. Et finalement, les discussions, elles se font quand même.
Vous avez une espèce de point d'équilibre. Mais du coup, j'ai l'impression que la relation que vous avez avec la mairie est aussi une façon pour la mairie d'interpeller l'État en bénéficiant de votre action et sans se salir les mains.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que notre force, depuis le début, c'est d'utiliser justement ces leviers. C'est-à-dire que quand nous sommes partis, la première réquisition, donc c'était sous Sarkozy, avec une mairie de droite. Ensuite, nous avons eu Sarkozy avec une mairie de gauche. Après, nous avons eu une préfecture de gauche avec une mairie de droite. Et qu'effectivement, à chaque fois, nous, ça nous sert. Enfin, on l'utilise. Parce que, en général, s'ils sont tous les deux de gauche ou de droite, là, ça ne nous sert pas. Mais comme en général, ils ont été assez opposés, donc en fait, ils nous utilisent pour effectivement faire levier, ou sur la préfecture ou sur la mairie. Et que nous, on joue le jeu parce que ça nous sert. Voilà, donc ça, on a parfaitement conscience qu'à un moment, nous, on veut bien être utilisé. Il n'y a pas de souci. À partir du moment où on a conscience et qu'on sait pourquoi on est utilisé, puisque l'objectif, effectivement, c'est que de toute façon, les enfants ne soit pas à la rue. Donc après, ces stratégies politiques, on les tolère et on joue le jeu aussi. Enfin voilà, parce que c'est dans notre intérêt. Même si eux, ils trouvent aussi un intérêt, c'est pas notre problème. Enfin,
c'est ce qui s'appelle de la diplomatie ou de la tactique. Hein. En tout cas,
ça s'appelle la stratégie, je pense.
La stratégie, au-delà, oui, parce que dans la durée, effectivement, c'est de la stratégie. Ouais. Un autre aspect que je voulais aborder avec vous, c'est que donc il y a ce combat-là, et puis il y a un modèle social qui évolue, et puis il y a aussi un public qui change. Vous l'avez un peu évoqué, mais je voudrais qu'on revienne là-dessus. Vous avez évoqué le fait que votre première action, elle a concerné des grands précaires, des SDF, des gens à la rue, ce que dans le langage commun, on appellerait des clochards. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit dans le film « Un toit sur la tête », c'est beaucoup de familles, et beaucoup de familles d'origine étrangère, enfin immigrées. Dans le contexte...
Pas que, quand même.
Pas que, mais c'est un des aspects de la discussion nourrie par le film, c'est aussi dans le contexte social qu'est le nôtre, dans le contexte politique qu'est le nôtre, cette question de l'image de la victime. Est-ce que c'est plus facile de s'occuper de clochards français que ça l'est de s'occuper de familles immigrées dans la France d'aujourd'hui?
Alors, moi, en tout cas, la stratégie du GPS, pour être honnête, la stratégie du GPS en partant, c'est que nous avions deux soucis, ce que je vous disais tout à l'heure, c'était les grands précaires qui mouraient et les enfants à la rue. Et on s'est dit, clairement, je vais être honnête, les enfants, ils sont étrangers, les précaires, les grands précaires, ils sont français. Donc pour se faire connaître, on va d'abord ouvrir un bâtiment pour les Français. Voilà. On a utilisé aussi, on en a eu parfaitement conscience, et le choix que nous avons fait, c'est qu'on va partir, voilà, pour que médiatiquement, oui c'est la réalité, pour que médiatiquement, voilà, on ne vienne pas nous dire, ah mais attendez, eux en fait, c'est pas vraiment, ils sont pas vraiment parce qu'ils sont étrangers, parce que voilà, on sait très bien le discours qu'il y a derrière de certaines personnes au niveau de la politique, et donc effectivement le choix que nous avons fait, c'est celui-ci, c'est-à-dire on médiatise les grands précaires à la rue parce qu'effectivement ils sont en majorité français, voilà. Et que les enfants, on les a hébergés dans des réquisitions, mais au début, on ne l'a pas médiatisé.
J'ai vu du flottement autour de cette tactique.
Non, mais sur l'évolution des publics, quand vous dites que les publics ont évolué, moi, en étant sur le 115, je n'ai pas cette impression-là. Il y a toujours des grands précaires, il y a des dames en grande vulnérabilité, il y a des familles de toutes origines. Hein, on n'est pas, moi, je n'ai pas cette sensation-là de vagues, voilà, telles que c'est médiatisé. C'est pour ça que je voulais juste clarifier, c'est pour ça que vous avez senti ce flottement, et qu'effectivement, on a des parts de chaque type de personnes à la rue. Il n'y a pas de... Voilà, c'est pas parce que là, on est sur la réquisition pour le public famille que le reste n'existe plus ou n'a plus besoin. Donc...
Je parlais, juste pour préciser ma question, parce que bien entendu, je ne parlais pas de vagues. Mais en tout cas, il est quand même question de représentation sociale et d'image sociale dans votre action. Et aujourd'hui, le fait que... Enfin, on l'a bien vu au moment de la question de l'accueil des migrants ou des réfugiés depuis quelques mois, la question de savoir pourquoi est-ce qu'on trouverait plus rapidement des logements pour des réfugiés et des étrangers alors qu'il y a tant de SDF à la rue, elle a traversé quand même le monde du travail social. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, parce que j'imagine que cette actualité-là, elle revient vers vous également. Et donc comment on assume une position en dépit de ces représentations un peu contradictoires?
Enfin, effectivement, la question s'est posée, en tout cas dans le milieu professionnel et dans le milieu militant, avec les arrivées de migrants. Mais après, ce qu'on défend aussi, c'est cette question-là. Évidemment que ces personnes-là, il faut les mettre à l'abri. Nous, ce qu'on demande et ce qu'on essaie en tout cas de soutenir, c'est il ne faut pas qu'elles soient à l'abri à défaut des autres. Voilà, il faut créer des dispositifs spécifiques pour ces personnes. Elles fuient leur pays en guerre, évidemment, c'est un public qu'il faut absolument aider. Par contre, moi, en tout cas, à titre personnel, je défends le « il ne faut pas que ce soit la place aussi d'autres personnes ». Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui m'importe énormément. Et ce qu'on essaie de faire remonter, c'est vraiment cette idée-là. ok, il faut les aider, mais qu'on ne les oriente pas sur des hébergements déjà créés, sur des places qui sont... des gens manquent énormément et cruellement de places. Donc c'est créer des dispositifs particuliers pour ces personnes-là. Et ça, c'est hyper important.
Thomas.
Oui, et pour compléter le point de vue de Virginie, ce qui est malheureusement toujours simplifié dans les médias, c'est aussi qu'on a l'impression qu'en France, on est trop généreux, on est trop gentil, qu'on va se faire envahir tellement qu'on est gentil, alors qu'on accueille très mal, en fait, les migrants. C'est pas pour rien s'ils préfèrent aller en Allemagne ou en Angleterre, c'est parce qu'on les accueille très mal. Et les Français sont persuadés de l'inverse, alors qu'en réalité, on accueille très peu de personnes. Si on regarde, par exemple, le nombre de personnes qui ont été accueillies en Allemagne, si on regarde le nombre de personnes qui ont été accueillies dans les pays limitrophes, par exemple, de la Syrie, le Liban a gagné, 25% de population en un ou deux ans. Donc nous, en fait, on accueille très peu de gens. On aurait les moyens largement de les accueillir correctement et de les intégrer rapidement et d'en faire une force, en fait. Et c'est vrai que chez nous, c'est tout de suite problématique. En France, par exemple, la question rome, c'est une question particulière. En Allemagne, que la personne soit d'origine rome, ça change à peu près rien à la façon dont on l'accueille. Donc c'est vrai qu'on a un véritable problème avec ça, mais c'est aussi que les gens sont très mal informés sur le sujet.
Oui, alors rappelons quelques chiffres, parce que pour aller dans votre sens, Thomas, c'est qu'effectivement, la France a proposé, je crois, 1 000 000 et quelques de places pour les réfugiés. La Turquie en accueille 2,5 millions de son côté. Et finalement, ce n'est que quelques centaines qui sont arrivées chez nous jusqu'à présent. Encore une fois, peut-être c'est l'occasion de rappeler que... ce grand thème de la concurrence des victimes, la mise en concurrence, c'est un choix politique. Et c'est quels moyens on met à disposition pour des gens qui sont précaires, quelle que soit leur origine, c'est aussi des choix.
Voilà, c'est vrai que le discours qui a été tenu, c'est effectivement avant d'accueillir les étrangers, occupons-nous de nos clochards. Donc là, effectivement, ça nous a vraiment fait beaucoup rire. Il y a même un petit collectif de SDF qui s'est monté en disant, attendez, on est là, on est dans les rues, dites-nous où on doit aller, chez qui on doit aller, puisqu'apparemment maintenant on va s'occuper de nous, on est intéressé. Non, en fait, clairement, c'est que nous, ce qu'on défend, c'est l'autre, c'est-à-dire, c'est un moment s'inquiéter de l'autre, qu'il soit français, pas français. Enfin, nous, si vous voulez, cette question, elle se pose même pas. Voilà, c'est quelque chose qui nous, elle a même pas lieu d'être. Nous recevons des gens qui sont à la rue, de différents univers, avec différents profils, des hommes, des femmes, voilà. Et que nous, effectivement, on est là et on reçoit leur souffrance, parce que vivre à la rue. C'est une souffrance énorme, être en perte de repères, ne plus avoir, être isolé, parce qu'en fait, quand on est à la rue, effectivement, avoir un toit, c'est la sécurité, mais c'est surtout l'isolement social qui tue à petit feu. Voilà, bon, à un moment, on ne croit plus, les personnes n'ont plus de lien, s'isolent. Et c'est ça qui tue, voilà, c'est ça qui tue. Et donc nous, effectivement, notre travail, c'est de nous occuper de ces personnes-là, voilà, pour qu'effectivement, elles ne soient pas seules, qu'à un moment, elles aient un endroit où elles puissent être entendues, écoutées, comprises, c'est ce qu'on essaie de faire, hein, de qu'elles soient comprises, voilà. Et que nous, si vous voulez, nos missions, c'est ça, c'est être avec les personnes, les êtres humains. D'où ils viennent, c'est vraiment pas notre problème, quoi. Voilà.
Et du coup, c'est facile, enfin pardon, je rebondis, mais c'est facile à communiquer aux yeux du public, du grand public. Moi, souvent, quand on parle avec les gens, avec un citoyen lambda qui nous dit oui, mais qui pose cette question des migrants, la réponse, elle est simple. Qu'un enfant, je prends l'exemple des familles sur la réquisition, mais qu'un enfant, il soit africain, albanais, russe ou français, ça reste un enfant à la rue. Donc face à ça, face à cette violence, parce que malheureusement les adultes aussi, mais ce qui va parler aux gens, c'est quand on prend vraiment les plus faibles, donc les enfants. Et ça pète les barrières de la nationalité, en fait. C'est vraiment, là, on a un gamin de 2 ans qui dort dehors depuis 6 mois. Qu'est-ce qu'on fait? Et on s'en fout d'où qu'ils viennent, en fait. On va l'aider, point.
Je m'arrête un instant, parce qu'on a mentionné plusieurs fois le nombre de collectifs auxquels vous avez participé, le GPS et le C10. Je m'arrête un instant dessus pour qu'on puisse identifier un peu ce que ça représente. Je pense que c'est assez révélateur aussi de la démarche par étapes qui a été la vôtre. Hein. Le GPS, donc c'est le. Vous me corrigez si je fais une erreur, c'est le groupe pour la défense du travail social.
Le groupement.
Groupement, pardon. pour la défense, merci Virginie, groupement pour la défense du travail social, ce qui rappelle justement ce mouvement de bascule où vous partez de votre position de travailleur social pour aller au-delà. Et puis la création du C10, c'est 2013, le printemps 2013, donc il y a presque 3 ans, si je ne me trompe pas, et c'est le collectif d'entraide et d'innovation sociale. Innovation sociale, là aussi, c'est là où je pense que notre débat va au-delà de la question de l'hébergement seulement, c'est comment on apprend à vivre ensemble alors que les institutions nous disent qu'à partir de maintenant, les moyens étant limités, ça va être très compliqué. Il y a donc un modèle là que vous proposez à d'autres, y compris sur d'autres questions. Comment se passe le lien entre votre action et celui d'autres collectifs, d'autres travailleurs sociaux qui sont en demande de conseils, d'expériences qui pourraient reproduire ailleurs?
Bah en fait, effectivement, dans le C10, quand vous dites innovation sociale, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, comme on l'a dit plusieurs fois, on ne s'arrête pas à la mise à l'abri. C'est que je pense qu'on est bon dans la force de proposition. On va, quand on a des réunions avec les instances publiques, c'est aussi arriver avec des projets, mais alternatifs, et pourtant qui fonctionnent. Et on a prouvé avant qu'ils fonctionnaient. Et on ne peut pas, au titre de nos collectifs, tout porter, effectivement. On n'a pas les moyens humains, et on n'a pas l'énergie non plus de tout porter. Du coup, c'est par le biais du CEDIS, c'est de pouvoir aussi soutenir d'autres groupes de personnes, d'autres collectifs qui peuvent se monter, qui en tout cas ont la même base de fondement que nous, la même manière d'envisager les choses, et de dire voilà, le CEDIS est aussi là pour porter ça. Si ça correspond à nos valeurs, en tout cas, on va vous aider à le porter. Par l'expérience qu'on peut avoir, parce qu'au bout de, maintenant ça va faire, moi à titre personnel, 5 ans que je milite, donc au bout d'un moment, on arrive à acquérir aussi de l'expérience. Et c'est aussi pouvoir mettre à profit cette expérience-là, sans pour autant tout faire et tout assumer nous-mêmes. Donc le C10, on a voulu l'élargir et que ce ne soit pas que une réquisition. Au même titre du GPS, hein, qui n'est pas que sur des réquisitions sur des squats. Le GPS, on porte beaucoup de choses aussi. On prend comme exemple dernièrement, ça a été la gratuité de la cantine à Toulouse. Ça a été les mineurs isolés étrangers, cette question-là. Ça a été les jeunes majeurs il y a un an. Voilà, on n'est pas que non plus sur un mode de fonctionnement alternatif en squat et en réquisition. Il y a d'autres choses qu'on peut porter. Et qu'on, voilà. Et c'est ce qui fait, je pense, la force des deux collectifs, en fait.
Thomas, vous vouliez réagir?
Oui, non, c'est tout à fait ça. Et effectivement, c'est très important à la fois d'être ouvert au réseau. Et c'est vrai qu'on travaille avec de nombreuses associations qu'on ne pouvait pas trop citer là, mais évidemment, au quotidien, quand même, Emmaüs, la CIMAD, RESF, la FNARS, la Fédération nationale des associations de réinsertion sociale. Enfin, voilà, on est soutenu par beaucoup d'acteurs, on les soutient aussi quand on en a l'occasion. Et donc c'est à la fois le réseau et puis l'ouverture à l'implication de chacun et d'essayer de permettre à chacun de trouver sa place là-dedans. Et on a régulièrement des gens qui disent « Tiens, j'ai un peu de temps, donc j'aimerais bien apporter quelque chose. Je peux faire des ateliers CV, je peux faire un atelier premier secours. Moi, je voudrais travailler sur la scolarisation. Je suis professeur de français langue étrangère. » Donc on a des gens qui viennent et l'idée, c'est aussi d'être une porte d'entrée pour que chacun trouve sa place, et pas forcément dans nos propres collectifs d'ailleurs. On a des gens qui viennent d'autres collectifs, et puis on a des gens qui peuvent passer par nous pour aller trouver quelque chose qui leur parle ailleurs. Et c'est vrai que le fait d'être toujours dans un réseau un peu ouvert, ça permet chacun de trouver sa place. Voilà.
Et de pas s'enfermer, pour nous aussi, parce que mine de rien, c'est facile à un moment de s'enfermer. Et moi, ce que j'aime en tout cas pour l'instant dans ces deux collectifs-là, c'est aussi cette arrivée de nouvelles personnes qui sont là un instant T, qui vont repartir faire autre chose, mais qui du coup à chaque fois nous apportent un regard extérieur qui évite vraiment cet enfermement de se mettre des œillères et de se remettre toujours en question. Et ça, pour moi, c'est essentiel, c'est pouvoir se remettre en question à chaque fois aussi. Qu'est-ce qu'on fait, on va où, on prend du recul, on prend peut-être une mauvaise voie, voilà, on repense tous ensemble, on essaie d'y réfléchir tous ensemble, on se recadre, on repart, enfin sur le niveau stratégique, mais aussi sur le fonctionnement du lieu du quotidien, voilà, sur plein de choses comme ça. Et ça, c'est essentiel, en fait. Et pour moi, c'est ce qui est riche, ce partage de compétences-là. C'est ce qui fait vivre, en tout cas, ce collectif-là.
Et moi, pour revenir sur le vivre ensemble, parce que je pense que c'est... Voilà, au niveau de l'innovation sociale, c'est ça aussi. C'est quand même, quand on pense que 150 personnes vivent ensemble, qui arrivent de continents, de tous les continents, avec des religions totalement différentes, qui partagent parfois leur appartement, qui cohabitent dans un même appartement. Donc là, effectivement, là, pour le coup, pour le vivre ensemble, on peut parler de... Voilà. Et que nous, le regard qu'on peut avoir sur ce vivre ensemble, c'est justement... Donc effectivement, après, c'est le quotidien, hein, ce que disait Virginie, c'est le travail au quotidien aussi. d'être dans la médiation, hein, parce que les conflits, bien sûr, ils existent, parce que les modes de vie sont différents, les cultures sont différentes, et c'est pas facile de vivre ensemble. Mais que malgré tout, tout le monde arrive à vivre ensemble. Et à partir du moment où on respecte l'identité différente de la personne, en tout cas les choix de vie différents de la personne, à partir du moment où elles sont reconnues, c'est-à-dire reconnaître effectivement que la personne n'a pas le même mode de vie que soi et qu'on le respecte. Voilà. Et c'est à partir de ça où le vivre ensemble est possible. C'est reconnaître la différence et la respecter.
Et ce qui est très important aussi, enfin, je suis tout à fait d'accord avec Annabelle, hein, c'est vraiment ce fondement-là, mais c'est aussi replacer les familles, par exemple, qui sont sur la réquisition, qu'elles redeviennent actrices un peu de leur vie. Donc ça, c'est essentiel. C'est ce qu'on fait dans notre métier au quotidien. Hein. Enfin, moi, en tant qu'assistante sociale, c'est mon but, l'autonomisation de la personne et qu'elle se ressaisisse de sa situation. Et c'est ce qu'on essaie aussi de faire sur le lieu. Par exemple, les familles qui sont sur le lieu ne sont jamais instrumentalisées. On va prendre le temps à force de discussions, de mois passants, de réunions, de leur faire comprendre et entendre que c'est aussi dans leur intérêt de se mobiliser pour leurs droits. Voilà, je prends l'exemple de manifestations qu'on peut organiser. On ne va jamais obliger des familles à venir manifester. Pour moi, ce serait un non-sens de faire venir des gens qui ne comprennent pas pourquoi elles manifestent et ce qu'elles revendiquent. Mais ça se construit petit à petit, comme le lieu de vie, comme tout ce qui se fait. Et c'est de leur faire comprendre que c'est dans leur intérêt, l'intérêt des autres, mais leur intérêt de venir réclamer leurs droits et de leur dire « mais vous avez des droits, vous êtes peut-être, enfin certains vous êtes étrangers, mais vous avez des droits, c'est pas parce que vous venez d'ailleurs que vous êtes là, que vous êtes dans une réquisition, que vous n'avez pas de droits. » Et ça, il faut vraiment que vous mobilisiez pour vos droits. Et ça, c'est important aussi, dans ce respect-là de vivre ensemble. En tout cas, moi je trouve que ce qui unit aussi tout le monde, c'est ça. C'est « j'ai droit à ça, on a tous ce même droit et on va essayer de l'obtenir tous ensemble. »
Ce sera le mot de la fin. Vous devez nous quitter pour aller à la projection d'un toit sur la tête et pour continuer à porter ce collectif et l'esprit qui l'anime. Merci à tous les quatre pour cette discussion.
Merci.
Et en espérant qu'elle suscitera des vocations prochaines.
Merci à vous.